VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 octobre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
République démocratique du Congo, un sommet international à Luanda, entérine l'accord issu du dialogue de Kinshasa.
Plus de 90 migrants portés disparus après le naufrage mercredi de leur bateau au large des côtes libyennes.
En Syrie, l'UNICEF a annoncé la mort de 22 enfants et de 6 enseignants dans des frappes aériennes sur une école de la province d'Idleb.
Le président Obama et son homologue turc Erdogan discutent par téléphone des prochaines étapes de la campagne contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Sommet international sur la crise en RDC à Luanda. L'accord politique trouvé au dialogue de Kinshasa a été approuvé par les chefs d'État présents en Angola. Le point avec Eddy Issango.
Quatre présidents, dont Joseph Kabila, sur les 13 que compte la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, des représentants de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies ont entériné l'accord issu du dialogue congolais au terme de ces sommets d'un jour à Luanda. L'Angolais Edouard Dos Santos, hôte de la réunion, a salué l'accord et affirmé qu'il ne soutenait pas un dialogue pour les dialogues, mais plutôt celui qui préserve et suscite la sagesse et conduit à des positions de consensus. Pour M. Dos Santos, allié de Kabila, l'opposition congolaise qui a boycotté ces dialogues devrait patienter jusqu'aux élections en 2018 plutôt que de se lancer sur le chemin incertain de la violence. Il a appelé ses opposants à participer au gouvernement d'union nationale pour préserver la paix. La plus grande partie de l'opposition congolaise a rejeté les conclusions du dialogue et veut continuer à manifester pour réclamer le départ de M. Kabila à la fin de son mandat le 20 décembre, comme prévoit la Constitution.
En Mauritanie, le procès en appel de 13 militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison pour usage de la violence s'ouvrira le 14 novembre à Zouérat. Le point avec Nani Talani.
Ces 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, condamnés en août à des peines de 3 à 15 ans de prison par un tribunal de Nouakchott, ont été transférés à Zouérat, dans le nord du pays. La cour d'appel de Nouadhibou, dont relève cette ville minière, a décidé de s'y déplacer pour juger les militants anti-esclavagistes. Maître Baoud Mbarek, avocat à la défense, a confirmé ce procès en appel, précisant qu'un des détenus se trouvait à Nouakchott pour des soins médicaux. Les militants d'Ira Mauritanie ont été arrêtés en juin-juillet pour leur implication présumée dans une manifestation contre le déguerpissement d'habitants du bidonville de Tsar à Nouakchott. Des manifestants et des policiers avaient été blessés. Sept habitants du bidonville, condamnés et détenus à Zouérat, seront jugés en même temps en appel. Ils sont tous accusés de rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue.
Au Soudan, la police a dispersé hier de manière musclée une manifestation dans un faubourg de Khartoum pour protester contre des expropriations de terres. Des détails avec John Linden.
Des centaines de personnes ont manifesté hier à Diraïf dans la banlieue est de Khartoum. Les manifestants accusent le gouvernement de vouloir saisir des terres pour les donner à des investisseurs sans aucune compensation financière. Des dizaines de policiers anti-émeutes sont arrivés pour les disperser manu militari. Des affrontements ont suivi. La police a fait usage de gaz lacrymogène et les protestataires ont brûlé des pneus et riposté par des jets de pierre. En juin 2015, une personne a été tuée pendant une manifestation similaire dans le même quartier. Au plan politique, après un dialogue avec l'opposition, le président Omar El-Béchir a proposé de nommer un premier ministre. Il avait supprimé ce poste après son coup d'État de 1989.
En Somalie, des rebelles liés au groupe État islamique se sont emparés hier de la petite ville portuaire de Kandala dans la région semi-autonome du Puntland, leur première victoire majeure depuis qu'ils ont émergé sur la scène il y a un an. Précision de Timothée Donangmaï.
Le groupe qui s'identifie simplement comme l'État islamique est un rival d'Al-Shabaab qui est affilié quant à lui à Al-Qaïda. Sa prise de Kandala semble s'être opérée sans grande difficulté. Nos soldats étaient peu nombreux et ne pouvaient combattre longtemps, a avoué Jamak Mohamed Fourché, un administrateur local du Puntland, en ajoutant que les assaillants ont mis en fuite les civils et les soldats défendant la ville, de même qu'ils ont coupé les communications. À noter que les soldats de la force africaine ne sont pas déployés au Puntland. Le groupe islamiste de cette région semi-autonome a annoncé son allégeance au groupe État islamique il y a un an. Il est dirigé par Abdi Kadir Moumine, un ancien commandant d'Al-Shabaab. Mercredi également, les islamistes d'Al-Shabaab ont investi une autre ville du centre de la Somalie après le retrait des troupes africaines et somaliennes. Ils ont aussi revendiqué la responsabilité de l'assassinat mercredi à Mogadiscio d'un colonel de l'armée somalienne.
Plus de 90 migrants sont portés disparus après le naufrage hier de leur bateau au large des côtes ouest de la Libye, a annoncé un porte-parole des gardes-côtes, Ayoub Kassem. 29 migrants ont été secourus à 42 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. Les survivants ont rapporté que 126 personnes étaient à bord du canot pneumatique, dont l'un des flancs se serait déchiré, déclenchant le naufrage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, des raids menés hier par le régime de Damas ou son allié russe sur la province d'Idleb, bastion de groupes rebelles islamistes et djihadistes, ont fait 35 morts selon une ONG. L'UNICEF a annoncé que 22 enfants et 6 enseignants avaient été tués dans des frappes aériennes sur une école dans cette province, sans dire par qui ces frappes avaient été effectuées. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des avions militaires ont mené 6 frappes sur le village de Has contre une école et ses environs, tuant 35 civils, dont 11 enfants.
Les djihadistes du groupe État islamique ont exécuté au cours des derniers jours des dizaines de prisonniers issus de villages d'où le groupe a été repoussé par l'armée irakienne près de Mossoul. Selon des responsables de la région cités hier par l'agence Reuters, la plupart des prisonniers tués étaient d'anciens membres de la police et de l'armée irakienne qui vivaient dans cette zone au sud de Mossoul, contrôlée par les djihadistes.
Le président américain Barack Obama et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus par téléphone des prochaines étapes de la campagne contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Maison-Blanche.
Vote historique à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour la première fois, les États-Unis et Israël n'ont pas voté contre la levée de l'embargo américain sur Cuba. Des détails avec Gabi Dorsil.
Depuis 1992, quand l'Assemblée générale a commencé son vote annuel sur la levée de l'embargo, les États-Unis et leur fidèle allié israélien avaient toujours voté contre. Mais nous sommes en 2016. Barack Obama et Raúl Castro ont initié un rapprochement allant jusqu'à l'ouverture d'ambassades à La Havane et Washington. Les choses ont changé entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Et c'est sous des applaudissements nourris que Samantha Power, la représentante du gouvernement américain à l'ONU, a annoncé que cette année, Washington a choisi l'abstention. Le vote final, sur 193 membres, 191 ont voté pour la levée de l'embargo, 2 abstentions, les États-Unis et Israël. Madame Power a néanmoins précisé que ce vote n'équivaut pas à un soutien de toutes les politiques et pratiques du gouvernement cubain. Somme toute, le vote qui plairait davantage à La Havane, c'est celui du Congrès américain, aujourd'hui dominé par les Républicains, qui sont encore pour le maintien de l'embargo.
En Italie, 2 secousses de magnitude 5,5 puis 6,1 ont secoué hier le centre du pays, faisant quelques dizaines de blessés légers selon un bilan provisoire, et ce, 2 mois après un tremblement de terre qui avait tué près de 300 personnes dans la même région. Paradoxalement, rapporte l'AFP, la première secousse a peut-être sauvé de nombreuses vies en poussant les habitants hors de leur maison avant la deuxième, plus destructrice. Mais les secouristes à pied d'œuvre, au cœur de la nuit et sous la pluie, peinaient à se faire une idée réelle de l'étendue des dégâts dans l'immédiat.
Ici aux États-Unis, dernière ligne droite de la campagne présidentielle, le républicain Donald Trump s'est dit prêt mercredi à sortir des millions de dollars de sa poche pour tenter de freiner la démocrate Hillary Clinton. La favorite des sondages reste pour sa part ultra prudente, déclarant « nous ne considérons rien comme acquis ». Nous reviendrons sur cette campagne électorale dans la seconde partie de cette édition.
Au Venezuela, un policier est mort hier soir après avoir été touché par balle lors d'une manifestation de l'opposition, et ce selon le ministre de l'Intérieur, Nestor Reverol. Il a dit que deux autres policiers ont été également blessés. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Enrique Capriles, avait fait état plus tôt de 120 blessés et 147 arrestations dans les marches contre le gouvernement. Les partisans de l'opposition ont manifesté en masse hier à travers le pays pour demander le départ du président socialiste Nicolas Maduro. Ils ont appelé à la grève générale pour vendredi et menacé de marcher sur le palais présidentiel la semaine prochaine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
Le ministre des Finances sud-africain Bravin Gordhan a révisé hier à la baisse les prévisions de croissance de la première économie du continent pour l'année 2016. Selon M. Gordhan, les prévisions de croissance de l'Afrique du Sud sont révisées à 0,5% pour l'année 2016, en baisse par rapport au 0,9% prévu en février. La société chinoise China Harbor Engineering Company décroche pour un montant de 770 millions de dollars le contrat d'extension du port de Conakry, la capitale guinéenne. Le chantier, dont aucun calendrier n'a été communiqué, porte sur la construction de trois quais d'une longueur totale de 846 mètres linéaires et l'aménagement de 41,6 hectares de terre pleine. Le président nigérien Muhammadu Buhari a demandé hier aux députés de donner leur accord pour un prêt extérieur de 30 milliards de dollars pour combler les déficits de l'État sur les trois prochaines années et financer des projets pour les infrastructures, l'agriculture, la santé et la réduction de la pauvreté. Autre source de financement, la vente d'euro-obligations d'une valeur de 4,5 milliards de dollars et un apport du budget national de 3,5 milliards de dollars.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Retour triomphal des Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud.
Oui, près d'un millier de personnes ont accueilli dans une ambiance de fête les joueurs du club sud-africain, sacrés champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. C'était dimanche à Alexandrie en Égypte contre le Zamalek. Sitôt débarqués de l'avion, les joueurs ont présenté le trophée de retour sur le sol sud-africain 21 ans après la victoire des Orlando Pirates en 1995. Leur titre en poche, les Mamelodi Sundowns se tourne déjà vers le Mondial des clubs organisé au Japon en décembre prochain. Les Sud-Africains pourraient croiser la route de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane en cas de qualification pour la finale. C'est ce que le tableau permet en théorie, mais la réalité du terrain pourrait être bien différente.
Coup dur pour l'attaquant ivoirien Gervinho.
Touché à l'entraînement avec son club de Hebei China Fortune, l'ancien Lillois Gervinho souffre selon France Football d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. L'attaquant ivoirien qui a rejoint la France pour passer des examens complémentaires manquera donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera du 14 janvier au 5 février prochain au Gabon.
Dopage, la suspension de la star kényane du marathon Rita Jeptu, prolongée de 2 ans par le tribunal arbitral du sport.
À la demande de la Fédération internationale d'athlétisme, le TAS a estimé que cette prolongation était justifiée par des circonstances aggravantes, notamment le fait que la prise de PO par l'athlète répondait à un programme planifié. Initialement suspendu jusqu'à ce dimanche, Jeptu, 35 ans, l'est désormais jusqu'au 30 octobre 2018, ce qui signifie sans doute la fin de sa carrière. La Kenyane se voit également privée des titres remportés en 2014 au marathon de Boston et Chicago. C'est ce qu'a précisé le TAS, la plus haute instance de la justice sportive. Et puis Idrissa, la saison NBA a repris, on en parlait hier. La deuxième journée a eu lieu cette nuit. Les résultats avec vous.
Miami 108, Orlando 96, Dallas 121, Indiana 130, Brooklyn Nets 117, Boston 122. Détroit 91, Toronto 109, Charlotte 107, Milwaukee 96, Minnesota 98, Memphis 102, Denver 107, New Orleans 102, Oklahoma City 103, Philadelphia 97, Sacramento 113, Phoenix 94.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un imam sénégalais qui avait critiqué les marabouts de son pays a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il avait accusé certains imams de faire du business et de s'être détourné de la voie tracée par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Nathalie Barge a joint à Dakar l'islamologue Cheikh Gueye, qui souligne que c'est l'État lui-même qui a saisi la justice et non pas les confréries.
Nous sommes en face d'une situation qui implique une confrérie religieuse très importante au Sénégal, qui existe depuis plus d'un siècle et qui regroupe sans doute un tiers de la population sénégalaise. Comme cela concerne les questions de croyance et de foi, c'est toujours assez sensible. Et donc, c'est une affaire de ce genre qui se multiplie de plus en plus avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent des choses considérées par certains comme des insultes ou des injures contre la confrérie. Et c'est un peu comme ça que cette affaire est née.
Toutefois, ce sont des critiques et non pas des injures. Est-ce que la liberté d'expression n'est pas une des valeurs de la République sénégalaise ?
La liberté d'expression, chaque fois que la question est posée, que ce soit dans des questions de religion ou de mœurs en général, elle est toujours en lien avec la question de la liberté d'autrui aussi, de la liberté de croyance. C'est toujours une tension entre ces deux-là qui est à l'ordre du jour. Ce type d'affaires va continuer à se multiplier. Maintenant, je peux comprendre que quand ça concerne une confrérie comme celle des Mourides, très importante au Sénégal, que l'État lui-même pense devoir agir pour prévenir des conflits ou des menaces à l'ordre public. Et je pense que c'est cela qu'il faut retenir comme raison pour laquelle l'État s'est saisi de ce dossier. Mais je rappelle encore une fois que ce n'est pas la confrérie qui a porté plainte, puisque cette confrérie, elle est connue pour aussi son esprit de dépassement, même si, évidemment, il y a toujours des disciples qui ne peuvent pas accepter d'entendre certaines choses. Mais il faut bien distinguer ce que dit la confrérie, ce que disent des disciples et ce que fait l'État. Je pense que sur cette question-là, il faut être très clair.
Les critiques n'étaient pas forcément dirigées contre tout le monde, mais contre certaines personnes. Autrement dit, l'on a déjà parlé plus d'une fois au Sénégal, notamment de ces imams qui exploitaient des enfants talibés, et la critique était permise.
Moi, je pense que l'essentiel de ce qu'il a dit, c'est des choses qui sont dites au Sénégal par un peu tout le monde et même également à l'intérieur des confréries. Peut-être que c'est la manière de le dire et certainement la volonté d'attaquer ou de faire mal à la confrérie que l'État peut-être, je dis bien peut-être, essaie de juguler. Mais dans le contenu de ce qu'il a dit, de toute manière, il suffit juste que quelqu'un dans la confrérie ou des disciples lui disent que c'est complètement faux. Et je pense que depuis lors, il y a énormément de personnes qui sont sorties pour donner des arguments contre les siens. Il ne faut vraiment pas que ça soit considéré comme une condamnation de la confrérie. Je rappelle bien que c'est l'État qui a porté plainte contre cette personne et qu'en portant plainte, l'État sans doute cherche à juguler ce type d'attaque qui commence véritablement à se multiplier et qui peut un jour peut-être générer des conflits ou des désordres dans le pays.
Est-ce que les personnes qui l'ont menacé physiquement risquent un jugement ?
Personnellement, je n'ai pas vu de personnes qui l'ont attaqué. J'ai vu des personnes qui sont allées le voir pour lui demander de se dédire et lui-même avait accepté ça.
Donc, ce que rapportent les médias, disant que vraiment il a été menacé physiquement, ce ne serait pas vrai ?
Écoutez, moi-même, la vidéo que j'ai vu des gens lui demander de se dédire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler menace physique, mais en tout cas, je n'ai pas vu de violence physique contre lui.
Joint à Dakar, l'islamologue Cheikh Gueye.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, certains rites vont à l'encontre des droits de la femme. Parmi ces rites, on peut citer ceux relatifs au veuvage. Afin de mener des réflexions en vue de bannir ces pratiques dégradantes, un forum a été initié par l'ONG Alafia. Les participants sont des chefs et prêtres traditionnels du Togo. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Ils m'ont fait inhaler du piment brûlé. Ils m'ont interdit d'éternuer. Ils m'ont dit que pour rompre le lien de mariage avec mon défunt mari, je dois coucher avec un inconnu, avec toutes ces maladies.
Voilà quelques-unes des pratiques de veuvage dont les femmes sont encore soumises dans certaines communautés au Togo, mises en scène par la troupe théâtrale de Lomé. Pour les organisations de défense des droits de la femme, la meilleure cible est celle des chefs et prêtres traditionnels. À cet effet, un forum est organisé à l'intention des garants des us et coutumes. Togbui Agokoli IV, roi des évêques et président des chefs traditionnels du Togo.
Apporter l'amélioration aux cérémonies de veuvage, c'est une nécessité. Et ce jour, comme on peut le constater, les chefs traditionnels, les prêtres et prêtresses vaudous, tous ceux qui sont impliqués sont réunis aujourd'hui ici pour réfléchir sur ce problème.
Pour Berthe Adjouavi Tate, directrice exécutive de l'ONG Alafia, initiatrice de ce forum, il lui serait difficile de se soumettre à une cérémonie de veuvage qui ne respecte pas sa dignité et c'est ce qui justifie en partie son engagement.
Je vais accepter. Non, c'est parce que je ne veux pas accepter que je suis en train de lutter pour que ça soit allégé, parce que je ne peux pas de moi-même ou bien une femme d'elle-même sans cérémonie refuser. Si tu refuses, il y a les représailles. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent, ils sont partout. Et donc, il faut aller progressivement.
Pas question d'abandonner les rites de veuvage au risque de subir la colère des dieux, soutient le président de la Confédération des prêtres traditionnels du Togo, Togbui Asiobo Nyagbondro III.
Mais la femme est obligée de faire le veuvage pour son mari. Le problème des églises autres, là, c'est un faux problème. Les gens font ça, mais ils retournent dans les villages pour faire le veuvage. Sinon, ils seront suivis par l'âme de leur mari.
Faire dos à toutes ces pratiques qui avilisent la femme, tel est le vœu de la société civile togolaise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Eh bien, au Soudan du Sud, 145 enfants soldats ont été libérés hier par deux groupes armés à Pibor, dans l'état du Jonglei. Ces enfants ont été libérés par le principal groupe rebelle de l'ancien vice-président Riek Machar et par la faction Cobra, un ancien mouvement rebelle. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud, Mahimbo Mundo.
Bon, on travaille avec les autorités, on travaille avec les groupes armés. En fait, on travaille avec n'importe qui détient ses enfants pour qu'ils soient libérés. On a 10 bureaux qui sont partout dans le pays. Alors, ces bureaux de zone, ils sont en contact avec ces différents milices et on négocie avec eux. Comme à celui-là, on n'avait pas libéré des enfants depuis 2015. Alors, on a fait une année de négociation pour relâcher ces 145 enfants. Parfois, oui, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais pour nous, une enfant dans l'armée, c'est une enfant de trop.
À combien estimez-vous le nombre d'enfants soldats au Soudan du Sud ?
On estime qu'il y a 16 000 enfants dans le Soudan du Sud qui sont dans les groupes armés différents dans le pays.
Alors, la libération de 145 enfants, même si c'est effectivement une bonne nouvelle, ça reste une goutte d'eau.
Oui, c'est une goutte d'eau, mais il faut prendre une étape à la fois. On a déjà fait 1800 et il faut continuer parce que le Sud-Soudan, il a toujours des problèmes d'insécurité. On fait tous nos efforts ici au UNICEF, même si c'est un enfant. Cet enfant doit être libéré de ses groupes armés. On ne croit pas que les groupes armés, c'est la vie pour un enfant.
Est-ce que vous assurez le suivi de ces enfants ? Parce que, bien évidemment, quand on quitte comme ça des groupes armés, les conséquences psychiques, psychologiques peuvent être importantes.
Oui, absolument. C'est, en fait, c'est une des choses les plus importantes. Alors aujourd'hui, on était à Pibor. Ils ont libéré les enfants. Après la libération, les enfants étaient conduits dans un centre pour un suivi psychologique pour une semaine. En même temps, on va essayer de trouver leur famille et leur communauté pour les réintégrer. Et ça, c'est le côté le plus difficile de ce programme, c'est la réintégration. Ça demande un suivi au minimum, au moins 3 ans, 4 ans, pour que ces enfants soient chez eux, qu'ils se sentent chez eux, que les autres communautés les acceptent. C'est ça qu'on est en train de faire. Heureusement, jusqu'à ce moment, la réintégration se fait bien parce que pour Pibor, à ce moment, il a quand même un peu de calme. Et ses enfants, ils ont l'opportunité de retourner chez eux et on espère vivre une vie normale.
Mahimo Mudo, le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud, joint à Djouba. Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton, la candidate démocrate, continuait hier à faire campagne en Floride, État qui pourrait à lui seul lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Son rival républicain, Donald Trump, lui s'est offert hier une pause publicitaire dans la campagne pour l'inauguration de son nouvel hôtel à Washington. Mais à 13 jours du scrutin, Jacques Aristide, c'est une pause plutôt inhabituelle, n'est-ce pas?
Eh bien, Idrissa, sa présence hier dans la capitale américaine, une ville massivement démocrate, a étonné plus d'un car Donald Trump n'a plus une minute à perdre s'il veut remonter son retard dans les sondages. D'après le candidat républicain, son nouveau palace de Washington, déjà préinauguré le 12 septembre, est le symbole de son succès immobilier. Pour sa directrice de campagne Kellyanne Conway, il ne s'agit que d'un bref arrêt et d'ajouter que Donald Trump a fait campagne sans relâche en Floride en début de semaine. Il a des meetings prévus aujourd'hui dans l'Ohio, puis dans le New Hampshire et le Maine. Madame Conway a également souligné qu'Hillary Clinton avait pris le temps de faire une apparition avant-hier soir à un concert de la chanteuse britannique Adele à Miami et que personne n'y avait rien trouvé à redire, trouvant même que c'est cool.
Justement, Jacques, c'était l'anniversaire de la candidate démocrate à la Maison-Blanche. Elle a fêté hier ses 69 ans avec un déplacement prévu à West Palm Beach en Floride.
Oui, Idrissa, un État où les électeurs ont déjà commencé à voter et Madame Clinton n'y laisse rien au hasard. Mardi, elle a fait le détour jusqu'au plateau de la chaîne de télévision en espagnol, Univision, pour un entretien. À la fin, elle a même esquissé quelques pattes de salsa avec l'animateur Raúl de Molina près d'un énorme gâteau d'anniversaire. Elle s'y est vue offrir une bouteille de tequila. Un nouveau sondage montre Donald Trump en tête en Floride. Cette enquête d'opinion de Bloomberg montre le républicain à 45% des intentions de vote contre 43% pour Madame Clinton dans une course incluant les deux petits candidats, le libertarien Gary Johnson et la candidate des Verts Jill Stein. La Floride, dont 23% de la population est hispanique, et le gros de la dizaine d'États clés où se jouera l'élection. Il permettra d'engranger 29 grands électeurs quand il en faut 270 pour gagner la présidentielle. Sans la Floride, il semble impossible à M. Trump d'atteindre ses 270 grands électeurs. La moyenne des derniers sondages établis par le site Real Clear Politics montre que l'avance de Mme Clinton est en train de s'y réduire légèrement. Désormais, à 46,4% des intentions de vote contre 44,8% pour M. Trump.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.